Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour cette édition du journal de Nu Info. Au menu, le chef de l'ONU rencontre le pape François au Vatican. Près de 300 personnes ont perdu la vie à la suite du conflit en Libye cette année. L'OMS signale que l'épidémie à virus Ebola en République démocratique du Congo est particulièrement mortelle pour les enfants. Et en dossier, nous marquons la Journée internationale de la solidarité humaine avec le témoignage du volontaire Ilias Sawadogo.
Muchísimas gracias, Santo Padre, por esta tan cálida bienvenida.
Your Holiness.
Le secrétaire général de l'ONU a rencontré le pape François au Vatican ce vendredi. Lors de son audience, Antonio Guterres s'est dit très reconnaissant de l'engagement mondial exceptionnel et du ferme soutien de sa sainteté au travail des Nations Unies, notamment dans la protection du climat, en faveur des migrants et de la paix. En ces temps turbulents et éprouvants, nous devons défendre ensemble la paix et l'harmonie, a déclaré M. Guterres. Près de 300 civils ont été tués cette année en Libye en raison du conflit armé, un nombre de victimes en hausse d'un quart par rapport à la même période l'année dernière, selon les données du Bureau des droits de l'homme de l'ONU et de la mission onusienne en Libye, annoncée ce vendredi à Genève. Les précisions du porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, Rupert Colville.
À ce jour, l'ONU a recensé en 2019 au moins 284 morts et 363 blessés parmi les civils en Libye à la suite du conflit armé. Il s'agit d'une augmentation de plus d'un quart par rapport au nombre de victimes enregistrées à la même période l'année dernière. Les frappes aériennes ont été la principale cause de pertes civiles, avec 182 morts et 212 blessés, suivis par les combats au sol, les engins explosifs improvisés, les enlèvements et les meurtres. Comme vous le savez, le sort des migrants et des réfugiés a été un sujet de vive préoccupation ces dernières années en Libye. Ces derniers continuent d'être régulièrement victimes d'abus, notamment d'exécutions extrajudiciaires, de détentions arbitraires, de disparitions forcées, de tortures, de violences sexuelles et sexistes, d'enlèvements contre rançon, d'extorsions et de travail forcé, des violations commises par des agents de l'État, des trafiquants et des passeurs. Entre janvier et novembre, plus de 8600 migrants ont été interceptés en mer par les gardes-côtes libyens et renvoyé en Libye, qui ne peut évidemment pas être considéré comme un port de débarquement sûr.
Une nouvelle étude de l'Organisation mondiale de la santé révèle que les enfants sont très fortement touchés par l'épidémie d'Ebola qui sévit en République démocratique du Congo, avec un taux de mortalité de 70% ou plus selon la tranche d'âge. Parmi les explications évoquées, les travailleurs de santé auraient des difficultés à reconnaître les symptômes chez les enfants. Alpha Diallo nous en dit plus.
Si Ebola avait déjà frappé la République démocratique du Congo, jamais les plus jeunes n'ont autant subi les conséquences. Les enfants représentent près du quart de toutes les victimes. Le dernier bulletin épidémiologique de l'Organisation mondiale de la santé recense presque 900 cas confirmés à la date du jeudi 19 décembre. Selon cette récente analyse, le taux de mortalité chez les enfants de 1 à 4 ans est même de 78%. Une situation inédite en RDC, mais l'Organisation mondiale de la santé note que pourtant ces chiffres sont similaires à ceux observés lors de la flambée de 2014-2016. En Afrique de l'Ouest. Plus largement, cette nouvelle étude de l'OMS montre que le risque relatif de ne pas être connu comme contact d'un cas d'Ebola est beaucoup plus élevé chez les enfants que chez les adultes. Si les raisons de mauvais aiguillage doivent être étudiées plus en détail, elles peuvent inclure, entre autres, les difficultés qu'éprouvent les travailleurs de la santé à reconnaître les symptômes du virus chez les enfants et la réticence ou l'inquiétude des parents à l'égard du transfert des plus petits vers les centres de traitement des urgences. À noter qu'à la date du 17 décembre, l'OMS fait état de 2217 décès sur un total de 3351 cas.
En ce 20 décembre, nous marquons la Journée internationale de la solidarité humaine avec Ilias Sawadogo. Ce jeune Burkinabé est depuis le mois d'août dernier volontaire international de la francophonie, détaché auprès du bureau de l'envoyé pour la jeunesse de l'ONU. Au micro de Jérôme Longuet, il explique sa mission actuelle et l'importance du volontariat.
J'ai un engagement associatif de très longue date qui m'a amené à travailler beaucoup sur les questions de jeunesse et les questions de développement. Donc je me suis engagé dans le mouvement associatif depuis l'âge de 12 ans. Et ce militantisme-là était beaucoup plus axé sur la promotion des droits des jeunes, la lutte pour l'accès à l'eau potable, la lutte pour le climat et autres. Donc c'est toujours dans cette dynamique de participer, donc d'apporter ma contribution pour l'amélioration des conditions de vie des populations, que lorsque j'ai vu cet appel à candidature de la francophonie, que j'ai postulé pour pouvoir intégrer le programme de volontariat international francophonie.
Donc un historique et une histoire profonde donc, en termes de bénévolat. Comment à 12 ans on va remonter? Comment à 12 ans on devient comme ça volontaire et associatif? On travaille pour l'eau, l'assainissement et tous ces défis?
Oui, ça a commencé quand j'étais encore au lycée. Et en ce moment, il y a une belle initiative qui avait été lancée à l'époque, qui était le Parlement des enfants. Et c'était vraiment un cadre pour permettre aux enfants de beaucoup apprendre de leurs droits et aussi également participer. Donc j'ai pris très conscience très tôt de l'importance qu'il y a en tant que jeune de contribuer donc à apporter des solutions aux problèmes que vit ma communauté, mais aussi parce que je voulais faire entendre ma voix en tant que jeune. Donc j'ai intégré ce parlement dans lequel je fais 6 ans. Et c'est là que est partie donc, la passion pour les questions de développement humanitaire et pour les questions de développement plus général. Et après, j'ai intégré le Parlement des jeunes, parce qu'il y a eu un Parlement des jeunes qui a été suscité d'ailleurs par l'Assemblée parlementaire de la francophonie de 2009 à 2011. Et après ça, bon, j'ai cofondé beaucoup d'initiatives, beaucoup de réseaux avec des amis. Donc, on a commencé à s'intéresser à la problématique de l'accès à l'eau potable, travailler sur l'emploi des jeunes, sur la participation politique des jeunes. Et comment est-ce que la jeunesse aujourd'hui peut se positionner en tant qu'acteur clé du développement. Donc voilà comment est née la passion. Et j'avoue que l'ensemble de mon parcours est vraiment basé sur cela. Parallèlement à mes engagements associatifs, j'ai travaillé pendant 4 ans en tant qu'assistant de programme jeunesse pour une organisation internationale française. Puis j'ai progressé dans une autre organisation où j'étais chargé de la mobilisation des ressources et de la communication. Avant, bien entendu, d'arriver ici à New York, il y a 4 mois comme volontaire international de la francophonie pour poursuivre toujours mon engagement.
Donc on rappelle le pays concerné, donc c'est le Burkina Faso.
Le Burkina Faso, oui.
Et vous avez quand même suivi des études après le lycée, des études universitaires, là également, vous faisiez partie donc, de toutes les associations que vous venez de lister.
Exactement.
Aujourd'hui, après 4 mois, quel est le premier, sinon bilan, le premier tour d'horizon que vous pouvez exprimer? Qu'est-ce que vous avez déjà vu qui vous fait dire que votre engagement, finalement, il va servir à quelque chose?
Effectivement, ça fait 4 mois que je suis là au sein du bureau de l'envoyé pour la jeunesse. Un bureau d'ailleurs qui bouge beaucoup et j'avoue que le bureau de l'envoyé du secrétaire général pour la jeunesse est le plus haut niveau de représentation et de participation des jeunes à la gouvernance mondiale et déjà ça c'est un grand pas. Et nous avons aujourd'hui, avec la stratégie jeunesse des Nations Unies qui est en cours d'implémentation, beaucoup à faire. Et j'ai pu également participer il y a quelques mois en septembre au sommet mondial des jeunes pour le climat qui s'est tenu ici donc, aux Nations Unies. Je vois vraiment une dynamique d'une prise en compte des besoins et du positionnement des jeunes réellement qui est une volonté réelle aux Nations Unies. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. On sent qu'il y a des réformes en cours pour que les Nations Unies soient beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus disposées à accompagner et à intégrer la jeunesse pour qu'elle puisse utiliser ce savoir, son énergie pour donc atteindre les outils de développement durable. Et vraiment, je suis très, très heureux d'être là. Parce que c'est un autre niveau d'apprentissage en termes d'apprentissage professionnel d'abord, parce que c'est un autre niveau de milieu professionnel. Et également, c'est un autre niveau qui me permet à la fois de développer mon réseau. Parce qu'ici, on rencontre beaucoup de personnes, on rencontre beaucoup de personnes intéressantes. Et ça, c'est déjà aussi un atout. Je suis heureux d'être là, en tout cas. Et nous avons vraiment de belles perspectives, beaucoup de programmes en cours, beaucoup de projets en vue. Ouais.
Alors, 4 mois donc, déjà à New York. Vous êtes là pour combien de temps?
Oui, je suis là pour 12 mois. La mission va durer 12 mois. Donc, il me reste encore 8 mois à passer ici. Et j'avoue effectivement que le temps a commencé à changer. C'est parce que nous connaissons chez nous au Burkina Faso où c'est beaucoup plus sec. Et ben, bon, on essaie quand même de prendre les mesures pour s'adapter.
Et en termes de fonctionnement, on rappelle, c'est la francophonie, Jeunes Volontaires Internationaux de la francophonie. Pour autant, il faut quand même aussi travailler en anglais et l'anglais est indispensable. C'est l'autre langue de travail. Donc, est-ce que ça pose des problèmes? Est-ce que c'est un défi?
Bon, pas un défi en tant que tel parce que, comme je disais, avec le parcours associatif que j'ai eu la chance également d'être engagé au plan international sur beaucoup de projets. Donc déjà, on a commencé à s'initier à l'anglais. Je pense que la francophonie milite fortement pour ce multilinguisme. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle ma présence a été souhaitée au niveau du bureau de l'envoyé. Parce qu'au sein de ce bureau, où je contribue à faire en sorte qu'on puisse avoir de la communication en français.
Voilà, fin de ce journal de Nu Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi, même heure, même fréquence.